bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour à tous.
Frédéric
Sylvie, bonjour.
Albert Abdou, Jérémy Crépy,
bonjour.
Et tout à l'heure Tanguy Pastureau et notre invité Zabou Breitman. Oui,
bonjour.
Pour logique imperturbable du fou et tout ça en un mot, rien que ça, il faut prendre son élan pour le dire. Texte, adaptation, mise en scène par vous Zabou Breitman, on est ravis de vous accueillir, en tout cas merci d'être là.
Merci Nagui.
Malgré le décalage horaire qu'il y a entre votre biorhythme et notre émission.
Oui. J'ai résumé, je l'ai mandé.
Eh ben oui. Je vais dire oui et non parce que je suis très fatiguée.
Non, en fait,
posez que des questions où je peux dire
que,
oui ou
pas,
non.
Je sais pas le faire, ça.
Très bien. Oh, donc,
ça commence quoi.
Je sais très bien faire les questions où la réponse est dans la question.
Très bien.
Donc, tu peux répondre.
Spécialiste.
Exactement. Tu peux répondre par oui ou par non. On va préciser quand même, vous étiez présente à Cannes.
Oui. Bah oui, mais bon. Alors,
pour. Non.
Alors hier soir, on a présenté au cinéma Art et Essai. Enfin, c'était comme un prologue,
ouais,
de Cannes, les Hirondelles
Festival
de Kaboul.
Festival qui ouvre demain, je crois, ou après-demain.
Ouais, c'est ça. Ouais. Les Hirondelles de Kaboul, d'après le roman d'Yasmina Kadra, qu'on a co-réalisé avec Eléa Gobé-Mévelec, qui a fait tout le graphisme, puisque c'est un film d'animation, mais c'est un film d'animation. C'est un film, en fait, sauf que c'est dessiné, mais on reconnaît les acteurs, Abkarian, Zita Enro, Swan Arlo.
Ça s'est bien passé, vous êtes contente?
Yamabas.
Ça s'est bien passé, vous êtes,
là-bas,
vous êtes contente?
Là-bas, ouais, ils étaient, bah, ça, on va dire qu'il faut un peu un mouchoir, quand même, à la fin. Mais moi, j'aime bien, vous savez, les... Voilà.
Bon, on rit dans la,
à la logique,
dans cette logique imperturbable du fou. Ça a été un énorme succès pour Avignon, off d'Avignon, triomphe même, avec ces jeunes acteurs que vous avez réunis, que vous appelez les Hirondelles.
Mes acteurs,
ouais.
Non, je les appelle les fous.
Très bien. Pour vos fous, donc, il y a Antonin Chalon, Camille Constantin, Rémi Lacquitan et Marie Petiot. Et donc vous à la baguette pour mener cette troupe, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord des questions concernant Zabou Breitman. De quel instrument s'est-elle jouée?
Le tuba?
Non, pas loin.
Le trombone?
Pas loin.
La trompette?
Pas loin.
Saxophone?
L'hélico? Le corps?
Hautbois? Pas loin.
Du hautbois?
Pas loin.
Eh ben si c'est saxophone. La clarinette.
Non, mais
elle a dit saxophone un petit
peu. Un petit peu.
Un petit peu, non, mais c'est pas ça.
La flûte?
Oui. La flûte traversière.
C'est
un
vrai.
Petit peu de saxophone, apparemment.
Oui, parce que c'est vous savez pourquoi?
Ça se joue de la même manière. Non,
bah, c'est le même doigté.
D'accord.
Ah ouais.
Je parle de l'instrument.
Oui, bien sûr, évidemment.
T'as rien dit.
On se serait jamais permis. Si c'est vous.
Non, mais il y a des mots de façon à ne pas prononcer autour
non,
de cette table.
Non, mais elle anticipe, elle a raison.
Non, parce que c'est pour que rien n'arrive.
C'est ça, mais vous avez raison.
Pour que rien n'arrive, vous le faites. La flûte traversière, vous l'avez apprise quand vous étiez enfant?
Oui.
C'est le premier. Parce que c'est dur, non, à jouer?
Je voulais jouer du violoncelle. Et mes parents m'ont dit,
c'est encore plus dur.
Non, mais c'était compliqué à porter. Et en fait, j'ai joué de la flûte. Ouais, c'est à porter partout. Et en fait, j'ai joué de la flûte parce que j'aimais les duos violoncelle-flûte. C'est vraiment, mais voilà, la raison est particulière. Et voilà. Et je me suis un peu ennuyée parce que c'est un instrument, il y a pas d'accord, quoi. Il y a une note, une mélodie, et je me suis un peu ennuyée. Et les instruments avant, c'est quand même très frustrant, très, très compliqué.
Et vous jouez encore ou pas?
Ouais, parfois, mais bon. Et le saxo, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer un peu, un peu mal, mais ça fait un peu cool.
Oui, c'est plus cool que
c'est pas cool du tout comme
le rock. C'est plus rock. Mais il y a, donc vous avez appris le solfège, de lire la musique, ça c'est utile?
Ah ben, vous savez, c'est comme quand je fais du grec ou du latin, c'est utile. Oui, c'est utile pour la tête, pour le cerveau, pour soi. C'est pas genre pratique comme ça. Je vais apprendre. C'est utile pour l'être humain, quoi. C'est mieux de savoir la musique. Je trouve ça merveilleux de savoir lire la musique. J'aimais le solfège, par exemple, alors que tout le monde disait bon, moi, je fais du solfège juste pour faire mon instrument. Mais moi, j'adorais le solfège. J'adorais le rythme. J'adore les histoires de transposition. Je trouve ça extrêmement intéressant.
Ça veut aussi dire que vous avez la justesse pour savoir si une note est bien jouée ou pas.
Ben ouais, c'est ça. C'est
ça doit aider, à la comédie aussi.
Complètement, complètement. Ce qui aide aussi beaucoup, c'est le rythme. C'est-à-dire que les silences, les respirations, c'est pour moi c'est pareil. C'est comme une mélodie.
Ça sonne faux, ça sonne juste.
Ouais. Ouais.
Parmi tous les acteurs français, lequel est son idole?
Disparu. Rochefort.
Lino Ventura.
Non.
Gabin.
Non.
Acteur français.
Marielle.
Mais on est dans le noir et blanc. Hein. On est dans le.
Oui. Le Funès.
Fernandel.
Non.
Gourville.
Gourville. Comment il s'appelait? Non. Un des frères Lumière.
Mais on est.
Des jeunes pro, un jeune premier.
Harry Bord.
Non. Jouvet, il y a une scène formidable.
Jean Marais.
Culte.
Non, le jeune premier.
Un face à face à table, Louis Jouvet et
Gérard Philippe.
Je peux pas vous aider plus. Non. Ah, bah, face à face à table, Louis Jouvet et.
Attends.
Michel Simon.
Mais oui, Michel Simon, évidemment.
Moi, j'étais pas du tout là-dessus.
Avez... Bah, Michel Simon, ça. Vous voyez des films avec Michel Simon en 1930, par exemple. Alors, il y a tout le monde autour qui joue d'une manière bizarre, et lui, il peut jouer aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire que. C'est insensé, quoi. C'est insensé.
Je crois que le premier Boudu, c'était lui qui l'avait joué.
Oui, absolument. Hein. Et bah, je pensais précisément à Boudu.
Ouais. Boudu.
Ce qu'il fait est tellement incarné, tellement juste. Il est exceptionnel.
Le vieil homme et l'enfant, un des derniers.
Ouais, ouais. Évidemment. Et puis alors, vous avez dit bizarre, Louis Jouvet et Michel Simon, c'était dans
Drôle de drame.
Qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, mais ça c'est culte. Mais ce genre de film que vous avez regardé à la maison, en famille, c'était le.
Bah, je regardais tous les films. Je regardais tous les films, les films français, certains, beaucoup de films américains, des films russes. On regardait tout. Tout, je regardais beaucoup de cinéma. Donc j'aimais énormément ça. Mais avec, tout et tous les genres.
Avec l'autorisation de papa maman, parce que
avec la plus que l'autorisation, avec une demande de papa maman.
Les encouragements.
Ah bah oui, il fallait. Oui.
En mai 68, elle est toute petite. Zabou est très précoce. Elle partit déjà au mouvement des étudiants, mais de quelle manière?
Elle lançait des cailloux au lieu de pavés.
En faisant des affiches.
Elle fait des sandwichs.
Elle faisait des affiches, elle militait, elle allait.
Je vais accepter
affiches. Je me souviens d'une histoire comme ça.
Les pancartes CRSSS.
Ouais. que je ne ferai plus maintenant.
Bah oui.
Non.
On n'a pas le même regard.
Non, pas du tout. Et puis les choses sont complètement différentes et ont changé, quoi qu'en pensent certains. Et je trouve qu'il faut avoir une sorte de. Quand même un respect pour des gens qui nous sauvent, qui nous protègent, qui nous sauvent aussi. Voilà.
Bien sûr. Et il y a des idiots partout. C'est pas parce qu'il y a un policier.
Puis il y a la critique possible aussi.
Par rapport au nombre, absolument.
Ça n'empêche pas de critiquer. Non. Quand il y a des débordements, ça veut pas dire que tout est noir ou tout est blanc.
C'est ça. Voilà.
Oui.
Il faut pas faire de généralité. Mais à l'époque, vous disiez être très harakiri, très rebelle, quoi, en fait.
Ouais, c'était quand on est petit, on pense beaucoup comme nos parents aussi. Mmh. Et j'ai retrouvé tous les Charlie Hebdo et tous les Harakiri Hebdo avant Charlie Hebdo, dont le dernier Harakiri Hebdo avait été balle tragique à Colombelles-les-Deux-Églises, un mort, c'était pour la mort de Charles de Gaulle, ouais. Donc avait été interdit et c'était reparu comme donc Charlie Hebdo. Et ils avaient tout gardé,
Et vous les avez tous encore aujourd'hui parce que ça.
Ouais, je les ai tous.
C'est précieux,
j'ai tout retrouvé quoi. Ils avaient aussi tous les canards qui sortaient pendant 68, dont
l'enragé.
J'ai les enragés, la gueule ouverte.
Enfin,
et même deux ou trois que j'ai retrouvés, il y avait Sartre qui avait sorti un truc qui a dû faire six numéros, quoi.
Toujours un journal pendant mes
68. Ouais, il y a ça.
Que regarde Zabou en premier chez un inconnu?
Les pieds.
Sa carte d'identité. Ses doigts, ses mains, ses ongles.
Pas loin.
Son passeport. Ses chaussures.
Oui, exactement. Chaussures.
Non, mais c'est pas tout. Bon, c'est aussi vrai que c'est pas vrai, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Non.
Non.
Alors. vous dites les chaussures donnent un milliard d'informations.
Mais.
Que dire sur Nike?
Non, c'est sur l'information, en fait. Si je veux savoir d'où vient la personne, oui, la chaussure. D'abord, vous savez tout de suite si la personne est française ou pas française.
Pourquoi?
Ah bah parce qu'il y a des chaussures qu'on ne trouve pas en France.
S'il a des mocassins, il est esquimaux.
Non, des formes de semelles, il y a des trucs qui sont que allemands, par exemple.
Ah, vous êtes pointu, en fait.
Ah oui.
Pointure.
Oh, oui, bien sûr.
Oh, joli. Oh, yes. Oh. Ça, c'est fait.
On va revenir à Winon. Et finalement, c'est pas mal.
Mais bien sûr.
L'allemand, il porte des bottes de cuir.
Sûrement italien, ou c'est quand même très fort. Hein.
Ce que j'aime bien, c'est comme Jérémy, tout le monde d'un coup se dit.
Oui, on peut voir si quelqu'un est un peu attentionné.
Mais non, mais il y a des styles. Après, voilà. Oui, et puis il y a des styles, il y a des genres, il y a des. On est classé tout de suite par ses pompes. Alors on va mettre les petites baskets blanches qui vont bien, et puis ou alors on va mettre des chaussures, et ou alors on va s'apprêter pour sortir. Et vous pouvez déterminer qui sont les gens, d'où ils viennent, ce qu'ils font.
Sauf
c'est vraiment intéressant.
Les femmes n'ont pas le même rapport aux chaussures que les mecs qui sont finalement jeans. Hop, je mets une paire de pompes, je fais pas attention.
Alors faux.
Ça serait trop simple si c'était
oui,
aussi...
Oui, regarde Tom Villa, il a une collection...
De chaussures à talons,
basket. Oui, mais de basket, mais elles ont toute une histoire particulière, il les met...
On est d'accord.
Mais il a un rapport à la chaussure, mais c'est pas genré.
Non, il a pas un rapport à la chaussure, il a un rapport à la basket.
Oui, mais c'est pas genré, c'est-à-dire que c'est un garçon.
D'accord. Mais peu importe. Ouais.
Non, mais il lâchera pas, de toute façon, je vois sa tête.
Parce que je pense que les possibilités
pour les filles sont plus vastes, notamment avec la taille du talon, notamment avec nu-pied ou pas, notamment... Non, mais tu peux faire escarpin,
basket aussi. Mais c'est pas parce que t'as plus de choix, pour autant, t'es forcément tenté d'en acheter.
Ma mère qui fait du 52 est très limitée.
Je dis que t'as plus de choix, donc il peut y avoir une diversité et une vraie décision de le faire. D'abord, une décision pratique, savoir est-ce que je vais marcher beaucoup aujourd'hui, est-ce que je resterai debout ou pas, est-ce que je mets basket ou talon, ce que genre de question ne se pose pas un homme.
C'est un moment gênant.
Non mais c'est
je l'assume totalement.
Mais les hommes aussi maintenant peuvent mettre soit des baskets, soit des chaussures vernies avec un petit talon, pas un petit talon, des bottines. Enfin, il y a quand même une diversité. Je trouve qu'il n'y a pas non plus.
Des talonnettes pour certains.
Il y a des moi je connais beaucoup d'hommes. Je connais beaucoup d'hommes qui passent.
On se pose rarement des questions sur les stilettos.
Non mais c'est là tu parles d'un genre de chaussures, mais il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très très fans de chaussures, qui en achètent beaucoup.
Cette émission.
Ouais, non, c'est vrai.
J'adore cette émission. On l'attend pas, le sujet qui va
on
nous
mettre sur les pieds.
Et là,
sur
la
du débat de fond.
Sur les grolles.
Zabou a une passion, limite même une obsession. Laquelle?
Une passion, une obsession. La cuisine?
Non.
La plus...
C'est des animaux? C'est
non.
C'est
de marcher, dormir, faire du sport.
T'es là, t'es avec nous, Albert, ou t'es parti là?
Non, je cherche à la chaussure.
C'est une activité.
Ça n'a rien à voir avec la chaussure.
C'est une activité physique.
Non.
C'est du dessin, c'est manuel.
Ah,
dessin.
Non.
Elle aime bien en coller, découper, faire des écrire.
La bande dessinée.
Oui, laquelle?
La ligne claire?
Non.
Le roman graphique,
non.
Le...
Non, une bande dessinée.
Ah, une bande dessinée, Astérix, Tintin...
Tintin. Merci Albert
d'être
venu aujourd'hui.
Mais c'est vrai que Gottlieb, ça a été quand même...
Rubrique à braque, évidemment. Dingo dossier.
Galuron, ouais. Mais c'est vrai que, c'est Gottlieb aussi très fort. Mais Tintin, c'est vrai que je connais vraiment super bien, quoi.
Il n'y a pas du tout le même genre d'humour entre Gottlieb et Hergé, hein.
Non, ni la même non,
ni le même
les
trait,
mêmes aspirations, ouais. Voilà.
C'est comme les chaussures.
Éthique, mais mais c'est parce que le dessin a quelque chose de tellement incroyable et de tellement l'évolution des histoires, la façon dont les personnages sont comme ça posés sur le sol où on voit les pieds et puis cette ligne claire avec ces aplats de couleurs et une ligne identique. En fait, quand on regarde, elle a la même épaisseur partout. Il y a quand même une intelligence des histoires et de la fabrication qui est complètement. C'est pas par hasard que c'est resté aussi fort, quoi.
Vous êtes passionné au point d'avoir participé à des soirées quiz.
Ouais.
C'est quoi les soirées quiz?
On faisait des soirées Tintin, quoi. Voilà. Et j'étais
comment
pas...
s'appelle le chien de Tintin?
Ah, je vous le dis, vous.
On n'était pas bon, mais. J'étais rarement la dans les meilleurs, mais j'étais à peu près la seule femme.
On a une référence parmi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes non plus dans Tintin, à part la Castafiore. Il y en a d'autres.
C'est même pas
Albert.
Une femme. C'est même pas une femme. C'est le dernier castrat de l'histoire de la musique. Je l'ai démontré dans un essai biographique non autorisé de la Castafiore.
Il y a la femme d'un chercheur, Madame Yamina, qui est assez jolie.
Sanders.
Il y a Madame Sanders et il y a la petite Miarka et il y a la
gitane.
La petite gitane et la couturière, la camériste de Bianca Castelli.
Parce que là, on a deux spécialistes avec vous, avec Zabou et Albert, ouais, hein. sur Tintin.
Et puis Tintin est tellement pas viril, entre guillemets, qu'on peut s'identifier aussi, on peut se dire fille-garçon, c'est pareil, quoi. On peut se mettre dedans.
C'est une sorte de sur-enfant,
ouais,
disait
il est léger là-dessus. Sur-enfant, ouais, c'est joli.
Il est à la fois fille et garçon, ouais. Et c'est pour ça, moi j'avais remarqué que les petites filles, par exemple, quand j'étais prof, je leur faisais lire Tintin, je faisais des travaux avec, que les petites filles étaient tout à fait enthousiastes, elles n'étaient pas désemparées parce que c'était un garçon, elles se retrouvaient dans Tintin.
Alors pourquoi Zabou fait, à juste titre, la remarque de dire « c'est étonnant pour une fille d'aimer Tintin ».
Oui, c'est souvent là, une remarque qui est faite, mais on oublie aussi que dans la BD belge, il y a Spirou et Fantasio et beaucoup d'autres, il n'y avait pas de filles. Ça tient aussi à une époque et à un contexte culturel.
Oui, c'est ça. Moi, je lisais Tintin parce que, de même que mes parents et mon père voulaient absolument que je lise tout, ils disaient qu'il n'y avait pas de raison d'avoir pas... Je faisais aussi du mécano, ils m'offraient aussi un microscope, ce qu'on n'offrait pas aux filles, ouais. Mais j'avais aussi une Barbie, un microscope, et je lisais Gottlieb, et je lisais La Comtesse de Ségur, et je lisais toute la SF, et il voulait que je lise tout, et qu'il n'y avait pas de problème de genre. Ouais. Et il trouvait que c'était absurde de
très avant-gardiste. Très avant-gardiste.
Très féministe, ouais. Papa.
Il n'a jamais été question que Tintin ne continue au-delà de la mort d'Hergé?
Si, c'est la grande polémique, mais Hergé ne souhaitait pas, c'est une de ses volontés testamentaires, c'est qu'il n'y ait pas de...
Parce que le décès du Uderzo n'a pas arrêté Astérix. Ouais.
Mais c'était la volonté d'Hergé, il a exprimé, il ne voulait pas qu'après sa mort, il y ait des remakes et des prolongations. Il y en a de brillantes, hein, pour Black et Mortimer, il y en a des formidables, ouais. Pour Astérix aussi, pour Lucky Luke, mais pour l'instant, c'est pas le... Et les ayants droit n'ont...
Ne sont pas d'accord.
Ne sont pas d'accord. D'accord.
C'est compliqué quand même. Mais même déjà, les Picaros, qu'il ait plus son pantalon de golf, moi, ça m'a vraiment gêné, quoi. Je suis un peu contre, quoi.
Un peu comme le mégot de Lucky Luke aussi, remplacé par le bout de blé. Pour quel rôle dans Récréa 2 faisait-on systématiquement appel à Zabou Breitman?
Pour quel rôle?
Ouais.
Quel rôle?
Une voix.
Dès qu'il fallait un personnage, on demandait à Zabou de le faire. Pourquoi?
Alors c'est... Même moi, je le sais pas.
Quoi, un personnage un peu...
Je peux jouer parce que je le sais pas.
Un personnage un peu quoi? Fantasque?
Je peux jouer? Un genre de personnage.
Un enfant?
Les lunaires?
La fée?
Non.
C'est plutôt un compliment ou...
Un animal?
Non. Ça correspond vraiment à toute la discussion que l'on vient d'avoir.
Un garçon?
Exactement.
D'accord.
Ah oui.
Pour jouer le rôle de garçon.
Ouais.
Ça me revient maintenant.
Oui. Mais aussi j'avais cheveux courts. Hein. Donc on a dû se dire, cheveux courts, garçon.
Dès qu'il manquait un rôle de garçon, bing, vous dites c'était pour moi.
Oui.
Ça
tombait
sur
moi. On était comme ça dans les années 80.
Quel souvenir avez-vous gardé de Jacqueline Joubert, de ses
années? J'adorais cette femme. J'aimais énormément. Tout de suite, en fait, quand j'ai passé les auditions pour parce que j'avais besoin d'un peu de sous, j'étais encore étudiante à Censier et j'avais besoin de sous, donc j'avais passé les auditions pour présenter des émissions pour les enfants. Et je me souviens d'elle, la première fois que j'ai rencontré, j'avais tout de suite senti la délicatesse
la bienveillance.
Et l'intelligence de cette femme, et j'ai trouvé formidable.
Parfait. Dernière question, Zabou a pris des cours de dessin, on vient au dessin cette fois-ci, pas la bande dessinée, devant des modèles d'hommes. Pourquoi dessinait-elle des gribouillis à la place du zizi?
Parce qu'elle n'osait pas regarder.
Ouais.
Je comprends bien.
Elle dessinait bien les pompes.
Mais il faut être très concentré quand vous faites les... Et donc je me disais, mais je ne vais pas le regarder pendant des heures. Donc j'en regardais un petit peu ailleurs, donc ça faisait un espèce de truc... On aurait dit
C'était ressemblant, dans le fond.
Non, c'était...
Quel est cet homme à trois mains?
Mais c'était dur de dessiner les hommes. C'est beaucoup plus difficile parce que, en plus, quand on avait des femmes, elles étaient, c'était des beaux modèles et elles étaient très rondes souvent. Alors, c'est super beau de dessiner une femme très ronde. C'était magnifique, quoi. Et puis, elle savait poser tout. Et un mec, il était un peu tout droit. Avec juste le paquet au milieu, quoi. Alors, je savais pas trop.
On n'est jamais glorieux dans ces moments.
Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais non, ça peut être très beau. Mais quand il était debout,
les statues grecques, elles sont. Mais elles sont très belles,
oui, mais faut se tenir.
Il y a une pause.
Voilà, et il posait peu et.
Tu venais les mains sur les hanches.
Mais non, mais c'était difficile. J'avais pas quoi en faire de ce truc, en fait, dans le dessin. Non, mais parce que je veux dire par là que quand il posait et que ça dépassait
d'un bras,
ça se posait parfois bizarrement sur ça. Alors.
comme une nature morte.
Et s'il éternuait, ça bougeait.
Il faut dessiner les angelots, en fait.
Mais je savais pas très bien.
Une corbeille de fruits.
Et ça restait pas toujours au même endroit.
C'était pas, c'était, et puis j'étais jeune aussi, ça me gênait plus. Mais c'était pas laid, c'était pas le problème, c'est que c'était compliqué dans la proportion.
La divine proportion.
La divine proportion.
Revenons à ce spectacle, Logique imperturbable du fou, avec avec votre fils, Antonin Chalon, avec Camille Constantin, Rémi L'Aquitant et Marie Petiot. Ce sont des textes, il y a texte et adaptation. Alors expliquez-nous un peu, parce que...
Il y a beaucoup d'adaptation hein, quand même.
Alors, expliquez-nous comment est né ce texte sous votre plume.
Alors, d'abord, j'avais fait...
On est dans un... Pardon, alors pour situer, on est dans un
hôpital psychiatrique.
Hôpital psychiatrique.
Voilà, plus ou moins, et après on s'en éloigne.
Après, on sait plus, voilà, on voyage beaucoup, on est même dans un aquarium à un moment.
On est partout, voilà.
On est partout, avec des personnages qui vont jouer d'ailleurs tous les rôles, que ce soit le rôle, les rôles
patients.
Des patients comme des soignants. Ouais. Voilà. Donc on ne sait plus très bien où on est nous par rapport à eux.
Alors, en fait, j'avais déjà démarré un peu cette aventure-là avec des gens, avec Laurent Lafitte, d'après les documentaires de Raymond Depardon, Urgence et faits divers. Et il s'agissait pas seulement de reprendre le texte et de le livrer comme ça, il s'agissait d'être au plus près du documentaire qu'on voyait, c'est-à-dire de jouer, d'être la personne, d'être son silence, son mouvement de bras, tout. Et je me disais que c'était intéressant de faire ça aussi avec quatre jeunes acteurs. C'est un travail de fou, donc, énorme. Pendant 2 ans, on a travaillé énormément avec eux. Je voulais aussi, sur la longueur, qu'ils apprennent un peu l'acrobatie, qu'ils se servent du corps et qu'ils sachent faire des choses.
Pratiquement des chorégraphies. Ouais,
ouais, des chorégraphies, de l'acrobatie, du clown. Et après, j'aimais bien l'idée du patchwork, c'est-à-dire de ne pas avoir que... on a travaillé d'après un documentaire d'Ilan Klipfer qui s'appelle Sur Sainte-Anne et sur la Borde. J'ai travaillé d'après des textes de Shakespeare. J'ai écrit des textes, j'ai fait des liens et j'ai également pris la salle numéro 6, enfin une partie de la salle numéro 6 de Tchekhov qui parle exactement de ça, du patient et du soignant, en disant, du moment qu'il y a des asiles et des prisons, il faut bien qu'il y ait quelqu'un dedans. Si c'est pas vous, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre.
La phrase est dite exactement celle-là.
Et à partir de là, voilà, on déroule tout. Et l'idée était de tout imbriquer d'une manière à ne plus savoir exactement où est Shakespeare, où est Tchekhov. D'ailleurs, les gens ne le voient pas.
Il faut expliquer que la Borde, c'est la clinique. C'est une clinique qui a été fondée au début des années 50 par un psychanalyste qui considérait que les fous, entre guillemets, pouvaient circuler comme ça. Et on mélange les soignants et les patients. On ne sait pas qui est qui parce qu'il n'y a pas d'habit qui catalogue dans une ou l'autre de catégorie. Moi, j'ai pensé à un autre documentaire de Nicolas Philibert qui avait été filmé une répétition d'une pièce de théâtre dans cette clinique où on voyait les préparatifs. Et on se demande qui est vraiment fou. Et comme ils ne sont pas stigmatisés par les vêtements, c'est difficile d'identifier qui est là pour être soigné et qui est là pour soigner les autres, en fait. Ouais.
Et ça, voilà, et ça, c'était ce qui m'intéressait aussi, effectivement, mais grâce à ça, c'est de montrer que c'est pas exactement un bras cassé, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et parfois, il y a également une telle poésie qui est proposée par des patients on se dit pourquoi on n'a pas le droit de ça. Alors il y a une phrase de Zouk aussi à l'intérieur du spectacle parce que elle parle comme ça de la contrainte, de l'enfermement et de la contrainte.
Et parce que c'était concentrationnaire quand même, la psychanalyse, la psychiatrie avant, c'était quand même tellement enfermé. Et c'est avec la Borde, c'était une autre façon d'envisager la thérapie.
Voilà. Et là, on parle aussi beaucoup des patients et de leur manière d'être et de raconter des choses. Et il y a par exemple un type qui visiblement qui travaillait dans le nucléaire, ça a dû cramer là-haut, quoi, et qui parle des petites fleurs, mais avec une espèce de délicatesse et de douceur merveilleuse, ou un qui raconte une histoire de fou. Et donc, il y a un patient qui raconte une histoire de fou qu'il a inventée. Et Et il y a comme
et puis, il y a des patients qui ont des propos extrêmement cartésiens, oui. cohérents, oui. et des soignants qui, eux, sont par moments très incohérents aussi.
Bah oui, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent.
Oui, oui.
Parce qu'on est limité à ce qu'on... Quand même, un être humain n'est pas un être absolument...
Extrêmement
capable.
Drôle, c'est enjoué, ça ne... Il n'y a pas, deux secondes de où on se lasse, et puis il y a des chorégraphies aussi. Quand même. Avec des couronnes ou des entonnoirs.
Et les gens sortent aussi beaucoup en larmes, bizarrement. Ouais, parce que
qu'est-ce que ça va chercher, à votre avis, chez les gens?
Mais la difficulté à être dans la norme, et en plus, le fait que ce soit des jeunes, ça compte, parce qu'ils ont l'âge des rôles. Hein. Ils ont 25 ans, et ces jeunes-là enfermés ont cet âge-là. Et ils se débattent, quoi. Ils se débattent dans des choses un petit peu compliquées. Alors,
donc
il y a un mélange de l'absurde.
On s'identifie un tout petit peu à certains
personnages.
Ouais,
ouais. On a envie de les sauver, on a envie de les prendre dans les bras, quoi. L'idée, c'est de leur remettre un statut d'être humain, quoi.
Comment vous est venue l'idée, justement?
Je sais pas comment m'est venue l'idée. C'est un endroit de contraste, quoi. Alors, c'est un bel endroit pour travailler. Et j'avais envie aussi que ces quatre comédiens qui sont vraiment éblouissants, quoi. Éblouissants. Je l'ai vu, je sais pas combien de fois. Je les regarde. Et je me dis, mais ils sont tellement, c'est tellement subtil ce qu'ils font, ce qu'ils arrivent à faire, que le travail, j'aimais l'idée de travailler très très longtemps avec eux, et pour qu'ils arrivent à être, bon, ils ont un talent au départ, hein, quand même, mais qu'ils arrivent à avoir quelque chose de tellement subtil, de tellement qu'on n'arrive plus à déterminer est-ce qu'ils sont pas en train d'improviser par hasard, ou est-ce que c'est comme ça tous les soirs? Oui, c'est comme ça tous les soirs, et ils ont une espèce de...
Mais le casting, comment vous l'avez fait? Parce que il fallait trouver certains qui tenaient bien l'accent québécois, d'autres...
C'est cousu sur mesure, c'est-à-dire qu'il se trouvait que Marie Petiot, dans sa famille, elle est moitié québécoise. Moi aussi, je suis moitié québécoise, donc je suis allée chercher un documentaire sur la psychiatrie québécois, et donc avec cette dame qui cherche sa petite grippou. Et je trouve que je voudrais voir ma petite grippou. Elle cherche grippou, mais c'est comme je cherche après titine, chercher après grippou, ça devient complètement merveilleux, chercher grippou. Chercher grippou, c'est chercher comment c'est chercher quelque chose, quoi. Que tout le monde cherche. Et alors, c'est Marie, c'est parce que elle est moitié québécoise, que je me suis dit, bah Marie, elle va faire ça. Et puis, Camille est moitié brésilienne, donc j'ai fait quelque chose qui est cousu
sur mesure. Incroyable. Quand elle s'énerve comme ça, quand ça part, c'est tellement fort, ça.
Mais si c'était pas elle qui le jouait, il y aurait pas cette scène-là, bien évidemment.
C'est ce que je me suis dit, c'est-à-dire que là, c'était vraiment du sur mesure. Ça ne pouvait pas aller à quelqu'un d'autre.
Rémi est très très grand et costaud. Il porte le petit lapin.
Des petites intonations à la Laurent Lafitte par moment.
C'est la justesse, je pense. L'hyper-réalisme, je crois.
C'est seulement jusqu'au 2 juin. Il faut pas le louper, hein. Jusqu'au 2 juin, 21h, au théâtre du Rond-Point. Ça s'appelle Logique imperturbable du fou, et vous l'avez entendu et compris avec toutes les émotions possibles et imaginables portées par Antonin Chalon, Camille Constantin, Rémi Lacquitant et Marie Petiot. Don Jack Lang, ça va être un succès, c'est déjà un succès.
Évidemment, très cher Nagui, cette pièce va connaître un succès fou. En vous entendant prononcer sans bafouiller « Logique imperturbable du fou », permettez-moi de remarquer que vous êtes aussi habile à articuler les néologismes à rallonge qu'à débiter ces labyrinthiques questions à tiroir dont vous avez le secret. Et chaque fois que je vous écoute, lancé dans vos circonvolutions rhétoriques qui frisent l'hermétisme malarméant le plus obscur, je me dis, quel bagou, quel tchatch, quel style. Et voyez-vous, Nagito Mio, votre faconde insensée n'aura jamais été aussi bien adaptée à l'invité de la bande originale que ce matin, car c'est d'une pièce de folie. Sur la folie, que j'ai mis à la folie, dont Zabou Breitman, qui en est l'auteur et la metteuse en scène, vient nous parler. Alors quand je dis pièce de folie, c'est au pluriel qu'il faut entendre folie, car lancé dans une étourdissante danse de Saint-Guy déboule les cabrioles sur la scène du rond-point de supposés dingos en tout genre, paranoïaques angoissés, schizophrènes agités, lapins rosés, bipolaires déboussolés, psychiatres dépassés et toutes les variantes possibles d'aliénés, désaxés, dérangés, déséquilibrés, détraqués, forcenés, timbrés, fêlés, piqués, cinglés, cintrés, charmés, sonnés, détraqués.
Merci.
Nagui chérie, une fois de plus, que constate-je avec moustache, que si vous aviez eu affaire à mon cousin Jack, vous eussiez pris des gants, Kenzo ou Louis Vuitton, pour lui dire avec tact d'enchaîner au lieu de le couper comme vous venez de le faire avec moi. Mais je ne vous garde pas rancune de ces interruptions, Nagui Nounet. Vous le savez, comme mon cousin Jack, je suis un ouf de la teuf. Rassurez-vous, il n'y a pas de contre-pitrerie. Un faux de la fête. Et dès ce soir, je vous invite dans les sous-sols capitonnés du Banana Café, où j'organise la teuf des oufs. Et pas perse. Un remake de la fête des fous du Moyen-Âge. Pour ma part, je serai vêtu d'un pyjama marinière Jean-Paul Gaultier, d'une camisole de force griffée Thierry Mugler et coiffé d'un entonnoir designé Stark. Alors, comme cette fiesta se tenait jadis sur le parvis de Notre-Dame, par sécurité, j'ai prévu d'inviter une brigade de vigoureux, courageux, musculeux sapeurs-pompiers qui seront nos garde-fous. Bonne émission quand même.
Merci, Albert.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Jusqu'au 2 juin, donc, à 21h, salle Jean Tardieu, c'est au théâtre du Rond-Point. Relâche les lundis et également le 30 mai. Est-ce qu'elle repart en tournée, cette pièce?
On repart en tournée d'après, bien sûr. On repart à partir de février-mars en tournée. On avait déjà joué 55 représentations. Oui. Et je pense qu'on va retourner l'année prochaine dans un théâtre parisien.
Et saluons la scène nationale de Toulon, parce que c'est eux qui ont été les producteurs.
C'était Théâtre Liberté, du projet. Absolument. Repris par ma toute jeune compagnie.
Ah.
Ben ouais, j'ai une compagnie.
Vous êtes maman à nouveau.
Je suis maman à nouveau, j'ai Capotine. Ça s'appelle Cabotine.
Cabotine.
Ben ouais.
Dans les noms que je voulais citer aussi, celui de Yang Biolin, j'espère avoir bien prononcé, parce que c'est vrai qu'il y a un travail d'acrobatie, de physique, de mouvement, là aussi, c'est du papier musique.
Hein. Il est fabuleux, ça. C'est un acrobate qui vit, enfin, et comédien, puisqu'il est de l'opéra de Pékin, pas du cirque de Pékin. Il avait entre autres fait, par exemple, des chorégraphies dans Tigre et Dragon, ou des choses comme ça, avec les batailles de bambou et tout ça. Il est hallucinant. Et c'est un monsieur qui, on riait beaucoup parce que on a l'impression qu'il travaille pas, enfin qu'il fait rien faire, et que tout le monde arrive à faire les choses. On se dit mais comment il fait? Il dit jamais non, jamais. Il dit pas non, ça n'existe pas. Tout est toujours avec. Il y a jamais contre, jamais. Et je sais pas comment il arrive à faire tout ça.
C'est la force de certains arts martiaux, se servir de la force de l'autre pour le faire aller dans son sens.
Oui, et il dit simplement... d'ailleurs, il y a eu un amusement, à un moment donné, il y a les quatre qui me disaient sans arrêt, oh, en fait, je pense qu'il sait rien faire.
C'est un imposteur
et qui sourit toujours en disant oui. Mais voilà, non, il est merveilleux, il leur a fait faire des choses... Je veux dire, quand la petite Marie grimpe comme ça sur Rémi, monte dessus pendant qu'il marche et atterrit sur ses épaules en trois, comme un chat, quoi. Alors qu'elle est habillée en lapin. Ce qui est quand même complètement dingue. Eh bien. Non, mais c'est fou, quoi. C'était pas du tout gagné il y a 2 ans. Elle a dit, mais jamais je ferais ça. Et elle le fait, mais c'est comme si j'étais bon.
Tous les soirs, c'est ça.
Oui, tranquillement.
Inspiré, vous l'avez dit, du documentaire de Dillian Clipper, avec les extraits de textes d'Anton Tchekhov, de William Shakespeare ou encore de Zouk. Ça s'appelle Logique imperturbable du fou et c'est au théâtre du Rond-Point. Voici Jérémy Crédil.
Oui.
Salut la bande.
Salut.
Ah, ouf.
Bonjour. Je suis là.
Bonjour monsieur.
En même temps, ça fait une demi-heure.
Ouais, c'est vrai. Salut le public. Oh, ils sont là. Salut les auditeurs. Bon, j'imagine qu'il y a un auditeur qui m'a répondu, puisqu'ils sont à environ 2 millions. Sinon, on vient d'assister au plus gros vent de l'histoire. Avant de commencer ma chronique, est-ce que vous acceptez les cookies?
Oui.
Tant mieux. Aujourd'hui, je voulais aborder
c'est vrai qu'il faut accepter les cookies.
Je voulais aborder l'épineuse question de la guerre civile au... Bonjour, je suis Flavien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent rapidement et facilement. Avec une méthode rapide et facile.
C'est vrai.
Ouais, saleté de pub. Même sur la radio publique maintenant, dis donc. Ça devient honteux. Pas les pubs, hein, la radio publique. Vous l'avez vu en plus, Flavien, c'est quand même le marrant. Ces mecs qui font ces vidéos, ils te disent comment gagner de l'argent, mais tu sens qu'ils en gagnent pas du tout. C'est toujours pareil. Le cadrage est pourri, tu vois le faux plafond, et Flavien, il a un polo Célio. Il y a même une trottinette dans le champ parce que ça fait cadre dynamique. C'est comme ça que tu gagnes de l'argent, Flavien. On est en 2019. Flavien, il te fait un PowerPoint. Et il te dit, d'après ce camembert, voilà comment pourrait augmenter vos revenus. Mais Flavien... Bon, déjà, il s'appelle Flavien. Non, non mais c'est pas un prénom. Non, mais c'est un mec qui s'appelle Jérémy avec un G qui vous dit que c'est pas un prénom. Non, mais on dirait que ses parents voulaient l'appeler Fabien, mais qu'ils ont éternué devant l'officier d'état civil. Comment il va s'appeler?
Il va s'appeler
Flavien. Et voilà. Et c'est devenu Flavien. Non, mais l'autre, en plus, il vient nous expliquer la vie. Ouais, faut investir dans les bitcoins. Non, Flavien. Dans les années 90, lui, il aurait fait une pub en expliquant qu'il faut tout miser sur le Concorde ou sur les eh ben alors, sur les laserdiscs. Qui m'a écrit
ta femme est toujours ORL?
Non, oui, toujours ORL.
Non, pas ORL. Orthophoniste.
Orthophoniste, pardon.
Non, c'est parce que j'ai écrit comme logique interprétée.
Le mec, il dit oui toujours, en plus.
Non, mais personne ne peut craindre. Un Flavien, c'est vrai. Il n'y a pas de super-héros Flavien. Il n'y a pas de méchant Flavien. Il n'y a pas un Flavien où tu vas dire, mais qui c'est cet homme? C'est Flavien. Il ferait passer Nagui pour un pauvre. Non, ça n'existe pas. C'est fou, quand même, que les gens croient en ses méthodes. Et c'est fou que Flavien croit en sa méthode. Alors que dans sa vidéo, en pleine explication, t'entends, Flavien, à table! Non, mais arrête, maman, je tourne. Qu'est-ce que tu dis, Flavien? J'entends pas. Allez, viens manger. Il y a des flaguettis et de l'autre. Saloperie d'allergie. Non, mais de toute façon, oubliez Flavien, oubliez les pubs internet qui vous promettent de plus gros revenus ou un plus gros sexe, ça ne marche jamais. Hein, ne me demandez pas comment je le sais, c'est tout. Gagner jusqu'à 8 cm, mon cul. Tout ce que j'ai gagné, c'est des rougeurs. Bref, je vais vous le dire, moi, comment gagner de l'argent rapidement. T'ouvres un magasin de chaussures à côté de chez Nagui ou tu deviens caviste en face de chez Leïla. De chez Leïla.
Ouais.
Ou encore mieux, tu t'oublies sur une table dans un épisode de Game of Thrones. Voilà, Starbucks, ils l'ont fait. Et un gobelet qui traîne dans le plan et bim, c'est des revenus. Alors que c'était même pas Starbucks. Là, tu vois, c'est simple et rapide. Là, c'est pas dans Captain Marlowe que ça serait arrivé, ça, je peux vous le dire. Si elle avait vu un gobelet Starbucks traîner dans le décor, elle l'aurait attrapé en faisant hey, c'est quoi cette saloperie impérialiste là? Tu qu'as laissé ça là, il vient le jeter où je le retrouve et j'enfonce ça là où il fait jamais jour. Voilà. Et là, t'aurais Flavien.
Oh là là, l'horreur. Ouais,
Flavien qui débarquerait avec sa petite trottinette, tout penaud. Désolé, ça, moi, je trouvais que ça faisait cadre dynamique aussi, le gobelet. Bon, voilà. Sinon, dernière solution pour toucher le jackpot, tu deviens caddie de golf.
Ah.
Ah, c'est vrai. J'ai appris qu'un caddie de golf, ça peut gagner 10% des gains du golfeur. Et les meilleurs golfeurs gagnent jusqu'à 10 millions de dollars par an. Ça fait quand même 1 million par an, juste pour suivre quelqu'un partout en poussant un chariot.
Ouais.
Mais quand j'y pense,
il fait pas que ça.
Je te donne un club.
Ah bah ouais.
Quand je pense que
coach, il conseille.
C'est vrai. Mon Dieu, je raille toute cette chronique. Non, mais quand je pense que j'ai fait ça toute mon enfance, moi, au supermarché, que mes parents m'ont jamais rien refusé. Pas la pièce qu'on met dans le caddie.
Que tu conseillais.
Bah ouais. Encore une fois, je me suis fait arnaquer, tu vois. Ça et les rougeurs. Moi, j'ai envie de faire un petit slam pour Flavien et je vais faire ça sans beat puisqu'on est sur France Inter. Je voudrais poser un slam pour notre ami Flavien.
Ah, j'adore.
Ce jeune homme au chômage qui te promet des gains. Il est un peu ringard, voudrait sentir le fric, mais il sent le smic. Il a dans son regard une envie que tu cliques. Sûr qu'avec sa méthode, tu ne gagneras jamais rien. Mais je voulais poser un slam pour notre ami Flavien.
Yeah,
France Inter. La bande originale.
La prochaine fois, je prendrai le bus.
Orthophonie, oui.
Orthophonie, quand il nous tient. Logique imperturbable du fou, c'est au théâtre du Rond-Point. Zabou Breitman en est l'auteur, l'adaptatrice, la metteuse en scène, la maman de cette troupe. Oui. On va continuer d'en parler, mais d'abord en musique. Alors en musique, sur scène. J'adore ce mambo.
Un peu SS-117, tu sais.
Fruco y su orchestra, ce sont les interprètes de ce Mambo No. 5. Il y a également...
C'est joli.
On voit, j'adore. Ça fait partie... Non, ça fait pas partie du son.
Vous savez, le
Chapelier fou.
C'est le Chapelier fou. Non, mais c'est quand même drôle. Mais bon, il s'appelle vraiment Chapelier fou. Hein. C'est Louis Varinsky qui a... Voilà. Enfin, j'ai pris ses musiques et elles ont parfois inspiré même la petite musique qu'on entendait là qui fait tam, tam, pam, pam. Celle-là. Ben, elle s'appelle Le Tricot. Et elle a inspiré un petit moment où Marie est dans un grand tricot et tourne comme ça, comme si elle était sur patin roulette. Et c'est juste... Ça peut venir dans tous les sens, les idées. Quoi.
C'est ça qui est fort. Ouais, mais il faut quand même en avoir. Ne minimisons pas tout ça. La bande originale dans la vie de Zabou Breitman, la musique que vous écoutiez en 67, Nino Ferrer. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est bien, là on est.
Ah, c'était lui.
Là on est au top.
J'ai toujours pensé que c'était pas lui, moi.
Elle est méconnue, ça.
On est au top. Il finit quand ce stage de troisième, rassurez-moi.
Ah, voilà.
Nino Ferrer.
Et en 67, Zabou Breitman, vous êtes sur scène, aux côtés de votre mère, dans une pièce écrite par votre père. Et je crois qu'ils ont besoin à un moment d'un figurant, d'un petit rôle, hein,
ouais.
C'est ça, un soldat.
Oui, un soldat.
Un petit garçon.
Un petit garçon.
Non, une petite fille.
Ah, bah non.
Ouais. Ah non, mon père était à fond sur. Oui. Ah bah non, si c'est une. Voilà. Et la petite fille a dit, parce que Jeanne d'Arc, ma mère jouait Jeanne d'Arc, et Jeanne disait. Elle appelait la foule, elle disait il me faut des hommes pour aller goûter les Anglois hors de France, donc il me faut des hommes, et j'arrivais, j'ai. Jeanne, tu as besoin d'hommes ? Me voici. Et ça faisait rire tout le monde.
Et vous adoriez ça ?
J'adorais ça et j'adorais tellement ça qu'au bout de trois fois, j'en faisais des caisses et la troisième fois, c'est la moins ri.
Ah oui.
Et je suis allée voir mon père, je sais pas pourquoi je lui ai dit, parce que
t'en fais trop. Des caisses. Voilà.
Premier apprentissage de
le
dosage du comique, quoi.
La vache.
La justesse. Exactement.
Ah bah, c'est radical, hein. Vanité, paf. Hein, ça,
ouais. D'où le nom cabotine.
Mais bien sûr.
On arrive à, donc au Bonheur des Dames. Là, on est en 74. Tu as entendu, non ?
Oh les filles, oh les filles. Moi, je les aime trop. Cocu, mais bon.
Et 74, changement de cadre, déménagement à la campagne pour toute la famille. Ça a l'air d'être un peu un. Ça a été une grande tristesse au milieu d'année. On quitte un peu, je crois, les copains, les copines, la classe.
On quitte le confort, beaucoup aussi.
Ouais.
C'est pas terrible, non.
Pour aller dans le Loir-et-Cher.
On imagine que la campagne, c'est plus confortable.
C'est un prieuré du XIIIe siècle sans rien dedans, si vous voulez. Pas de trois inscriptions de la Révolution française, mais sinon.
Non, mais c'est pas une tour HLM non plus où on n'a pas d'espace.
Ça, c'est vrai, Il n'y avait pas de misère intellectuelle, ni de difficultés sociales. Il n'y avait pas d'argent. Du tout. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai ce que vous dites. C'est vraiment important. Non, c'est vrai.
Et vous êtes revenu comment à Paris, alors, avec votre cousine?
J'en ai plus rien. Je suis revenue pour faire des cours. La boucle va être bouclée très bientôt puisque je repars en fac et je fais récré à deux. Et hop, on peut recommencer avec les questions de tout à l'heure.
Non, vous revenez à Paris, vous inscrivez au cours Simon.
Ouais, je m'inscris au cours Simon, je reste deux mois.
Parce que
je m'ennuie et je trouve que c'est pas bien ce qu'on me raconte.
C'est vrai?
Non, déjà, je trouve que c'est pas bien ce qu'on me raconte, je me retrouve pas, quoi.
Qu'est-ce que vous attendiez? Enfin, qu'est-ce qu'on vous.
Mais on m'apprend des trucs que je sais ou que je sens pas, où on me dit, oh oui, il faut faire ça, il faut s'accrocher au rideau cramoisi quand on est fait de la tragédie. Je trouve pas du tout, je suis pas d'accord, ça m'énerve. Et je faisais déjà, on disait des vers, des alexandrins avec mon père, on se marrait avec mes parents. Et donc, je retrouvais rien de ludique, en fait, voilà. Je trouvais que rien n'était ludique. Alors que je trouve que la culture doit l'être. Et
c'est
en tout cas
un peu prétentieux comme cours, c'était un peu.
Non, je crois pas. C'était quand même adressé à des gens qui n'avaient pas de, qui ne connaissaient pas tout ça du tout. D'accord. Donc fallait bien commencer par quelque chose. Donc c'est pas si mal que ça. Mais pour moi, c'était. Je comprenais. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi?
Ça venait trop tard, quoi. Ouais, c'est ça. Vous avez déjà tout appris.
En tout cas, oui, plein de choses en éducation active ou passive, puisque tout ça, ça se faisait naturellement, quoi.
Et vous étiez très critique aussi sur les enseignants, en ayant la sensation qu'en fait, le prof, il est là, il joue pas beaucoup par ailleurs, donc il fait un peu son cinéma devant les élèves.
Parce qu'il y avait une manière. Oui, on en a connu plein, des profs comme ça, mais c'est pas toujours le cas. Il y a plein de profs absolument merveilleux. Moi, je vois avec tous les quatre, là, qui ont eu plein de profs fabuleux aussi, là, au cours Florent. Je sais qu'il y a des gens exceptionnels, il y a des profs exceptionnels qui les aiment, qui les soutiennent.
Mais est-ce qu'on est obligé d'être bon comédien ou bon metteur en scène pour être bon prof ?
Pas forcément. Non, je crois pas. Je crois que c'est autre chose. Ça n'a rien à voir.
En tout cas, c'est une vocation. On le fait pas parce qu'on tourne pas. On le fait pas pour occuper
son
temps libre, quoi.
Ouais, je pense.
1987, Zabou Breitman, écoutez, dansez, j'imagine.
Oh là là.
87, on vous retrouve sur scène pour votre premier grand rôle au théâtre dans Georges Dandin, mise en scène par Roger Planchon, qui a été un dramaturge, un homme de théâtre qui a influencé beaucoup, beaucoup de comédiennes. Il est important dans le parcours de beaucoup.
Oui, j'ai parlé récemment avec Michel Esco, qui me parlait de lui avec,
Amour.
Ah bah oui, bah oui. Bah parce que c'est un très grand, quoi. J'ai eu énormément de chance et je ne m'en rendais pas vraiment compte. Quand il m'avait dit, voilà, j'aimerais bien que vous fassiez Angélique dans Georges Dandin, j'avais fait, ouais, mais bon, c'est un peu chiant le classique, on s'ennuie, on ne comprend rien. Mais insensé quand même, hein, quand j'y repense. Et il m'avait dit, mais non, mais on ne va pas s'ennuyer, vous allez voir. C'est sous ça génial, quoi. Le mec, il a... au lieu de me dire, non, mais du don, espèce d'imbécile, ouais. Non, non. Tranquille, il m'a dit non, mais vous allez voir, ça va être. On va... Parce que je dis, mais il faut qu'on comprenne les sentiments. On comprend rien quand c'est joué le classique. Il dit, ah non, mais on va pas le jouer comme ça, on va comprendre.
Il est connu pour décrypter les textes, pour les décomposer, ouais. Pour les analyser.
Avec un dramaturge qui s'appelait Bataillon et que je trouvais incroyable. Et on racontait les. Et je sens que je savais pas. Enfin, j'étais juste là pour le coup, j'étais pas prête. Je recevais. Confusément, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je ne comprenais pas tout. Il me disait, c'est pas grave. Il me disait, c'est pas grave, tu comprendras après. Ce qui est vrai.
Et avec le recul...
Tout était vrai, était insensé.
Vous auriez aimé en profiter plus, oui. De ces moments, ouais.
Oui, mais bien sûr, je me souviens de tellement de moments de répétition, tellement c'était brillant ce qu'il me disait, tellement... Et je me dis, mais comment j'ai pas compris tout ce qu'il me disait avant ? Mais en fait, c'est marrant parce que ça reste...
En 2003-2004, vous écoutiez Usher. En fait, vous aimez danser, quoi.
Ouais.
Et 2003-2004, c'est deux années hyper riches. 3 Césars, 6 Molières. Bim.
3 Césars, 6 Molières.
Ouais.
C'est une petite année.
Il y a beaucoup de gens en une vie qui n'auront pas tout ça, donc. Hein, et là, c'est en 2 ans, Zabou Bretman. Se souvenir des belles choses, donc 3 Césars. Isabelle Carré récompensée, Bernard Lecoq, et puis vous pour la première œuvre de fiction.
Alors, c'est un film que j'ai écrit avec mon papa, avec mon père. Et ça a été quelque chose de très fort. C'était... Xavier Gélin qui m'a dit on se connaissait très bien parce que en fait mon père et son père Daniel Gélin étaient copains à 17 ans 18 ans, ils allaient au cours Simon. Et Xavier c'était comme un cousin quoi. Et un jour il me dit mais pourquoi t'écris pas un truc ? S'il m'avait pas dit ça, je sais pas si j'aurais fait un film. J'ai proposé un premier truc, il m'a dit non, puis tout à coup je lui ai proposé en 2 pages, il y avait ça. Et il m'a dit bah ça voilà, ça c'est bien. Et il m'a dit avec qui tu vas l'écrire ? Je lui ai dit ben je sais pas, il me dit mais avec ton père tu vas l'écrire. Sur la mémoire. Et je dis, bah ouais. Et ça, c'est Xavier. Alors, Xavier, malheureusement, est décédé avant de voir le film. Mais ça a été quelqu'un d'extrêmement important parce que jamais je l'aurais fait.
Vous entretenez des rapports particuliers avec Hugo ?
Bah ouais, quand je le vois, c'est. Ah bah oui. Oui, c'est comme ça, quoi. Quand je le vois,
Quand vous voyez ses films, enfin, vous voyez.
Ouais, déjà, je suis tellement heureuse qu'il soit aussi fin et talentueux et qu'il ait du succès. Donc,
Et que Zazie Film continue d'exister. Parce que c'était le surnom de Xavier était Zazie. C'était le nom de sa boîte.
Absolument. Et quand je le vois, lui, l'autre fois, je l'ai vu et c'est pas salut, c'est. Bon, on se serre dans les bras, câlin, on est très, très, très émus. Ouais.
Et puis Molières.
Six Molières aussi. En 2004 cette fois-ci pour l'hiver sous la table de Topor.
Ouais.
D'accord.
Isabelle
Carré.
Encore Isabelle Carré.
Dominique Pinon. Enfin ensuite. Oui. Je vais pas toutes les citer les récompenses aux Molières non hein, ça va c'est suffisant.
Mais c'était à l'atelier non.
Ouais, théâtre de l'atelier.
Quand on traverse une période comme ça, on se dit waouh, je viens de vivre en 2 ans, peut-être que tout ce que je n'aurai pas après.
Non.
On s'inquiète de la suite ou pas ?
Pas du tout inquiète.
Ou on se dit au contraire, ça va continuer, je vais continuer.
Non plus. Non, non. La seule inquiétude, c'est à l'envers.
Ah.
C'est de se dire j'ai le droit de faire des trucs sans prix aussi, hein. Non, mais c'est faux parce que. Moi, ça me gêne pas, mais c'est ce qu'il y a autour. Vous savez bien, quand vous êtes regardé et vous êtes déjà prévu et on vous a déjà raconté des trucs que vous ne pensez pas vous-même. Donc, c'est pour ça que j'évite toujours de lire la presse, de regarder tout, parce que je trouve ça perturbant. C'est pas seulement les mauvaises choses, mais les bonnes sont aussi perturbantes. Et c'est comme si on vous attendait un peu après au tournant. Non, moi, je veux continuer à faire mon
travail. Des créations naturellement.
Oui, ouais, c'est ça. Que les élans soient entre guillemets, assez pur, quoi. Assez...
François Lelore, merci de venir à ce micro. Vous êtes écrivain, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Les aventures de votre personnage Hector ont été publiées dans 35 pays. Félicitations. Mars, bah oui, vous levez les yeux au ciel, c'est pourtant vrai. En mars 2018, sortez votre dernier livre, Hector et les lunettes roses pour aimer la vie. Avez-vous une définition, vous, de la folie ?
Écoutez, c'est une question difficile pour un psychiatre, puisque pour nous, la folie, c'est un peu comme pour un médecin, la maladie, on a plein de sortes. Et donc, entre quelqu'un qui va faire une dépression, qui va guérir en quelques mois, et quelqu'un qui a un trouble schizophrénique, qui toute sa vie va avoir des idées délirantes, il n'y a pas beaucoup de points communs. Donc, la folie, pour nous, c'est un terme un peu poétique, littéraire, mais qu'on manie un peu avec précaution. D'ailleurs, dans la pièce, il y a une certaine variété de folie, entre guillemets.
Alors, justement, on a ce sentiment-là d'être toujours le fou de quelqu'un, ou quelqu'un est toujours un fou pour nous.
Oui, ben c'est qu'on a tous notre vision du monde, et même quelqu'un qui a une personnalité un peu difficile, qui n'est pas de notre avis, parfois on dit, mais il est complètement fou, il pense que je lui veux du mal, mais il est fou. Alors, on distribue ça assez largement. Mais alors, ce qu'on peut vraiment appeler la folie, c'est tout ce qu'on appelle les troubles délirants, c'est-à-dire les gens qui ont des hallucinations, c'est-à-dire qui voient des choses ou qui entendent des voix qui n'existent pas, et qui ont des délires, c'est-à-dire des croyances un peu absurdes qui n'existent pas non plus, mais dont ils sont persuadés.
Donc, ce n'est pas le simple fait de ne pas penser ou de ne pas être comme tout le monde.
Non.
Pas être dans la norme, parce que je préfère dire norme que normal, ouais. Parce que c'est la majorité qui décide de la norme.
Oui, enfin, on peut dire oui, c'est la statistique aussi, quoi. Ouais. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une taille normale ? Ben voilà, c'est une taille qui est entre moins et plus, hein, vous voyez.
Pourquoi vous parlez de taille quand vous vous adressez à Nagui ?
Pour que je comprenne.
Non, mais j'aurais pu parler de poids, mais après, j'allais
pourquoi
dire.
Pourquoi vous parlez de poids quand
ça va,
vous parlez
de poids ?
Ça va mettre mal à l'aise les gens surpoids. Donc en fait, dès au début de la pièce, je crois que c'est Tchekhov, elle dit, bah oui, la société a décidé de mettre de côté, voilà, les gens qui la gênent et tout, mais c'était peut-être vrai encore l'époque de Tchekhov, mais aujourd'hui, plus vraiment, aujourd'hui, sur le souci de tout psychiatre et de tout soignant, c'est quand même de faire sortir, d'espérer que les patients vont sortir et vont être en meilleure santé avant qu'après. Je veux dire, les équipes soignantes n'ont pas envie de garder leurs patients à l'hôpital.
Alors, la santé, justement, de l'un des patients, c'est qu'il soit bien dans sa peau, point, ou qu'il soit bien entouré des gens de la société et qu'il soit intégré. Parce qu'il y en a qui sont, il y a des fous heureux qui ont pas besoin d'être spécialement dans les clous ou dans les normes dictées par les autres.
C'est-à-dire que tout le monde, si vous voulez, aujourd'hui, a besoin d'un revenu, a besoin quand même d'un réseau. Et c'est vrai que quand on entre dans une grave maladie mentale, souvent on perd à la fois ses réseaux amicaux et familiaux, son statut professionnel, son revenu. Donc, la sortie va être d'autant plus difficile. Parce que parfois, les gens rechutent, non pas forcément parce que leur maladie elle-même s'aggrave, mais parce que l'extérieur ne peut plus les accueillir. Donc, dans ce sens-là, oui, la société joue un rôle. Et d'ailleurs, à l'époque où je vivais en Asie, je voyais des expatriés qui avaient des troubles schizophréniques graves, mais qui vivaient dans la ville parce qu'ils étaient le français un peu bizarre, si vous voulez. Alors qu'en France, ils auraient eu un vague studio thérapeutique, une allocation adulte handicapé très faible, ils auraient été très malheureux. Et en Asie, au fond, on ne se rendait pas bien compte, les gens autour d'eux ne se rendaient pas bien compte qu'ils étaient fous, ils étaient juste bizarres.
Alors justement, oui, faut-il...
Ils prenaient leurs médicaments.
Faut-il enfermer ? Quelle est la manière de soigner les problèmes mentaux ?
Si vous voulez, enfermer, c'est-à-dire mettre quelqu'un dans un hôpital contre sa volonté, c'est très très encadré, ce qu'on appelle l'admission aux soins psychiatriques, enfin sans consentement, mais c'est très encadré, c'est-à-dire qu'il faut un ou deux avis de psychiatre, il faut que le juge des libertés, des détentions fasse aussi un tour régulièrement pour voir si c'est justifié. Donc c'est quelque chose qu'on utilise quand les gens se mettent en danger, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui s'enfonce dans une dépression grave et qui a un risque suicidaire, ou quelqu'un qui a une bouffée délirante où il ne sait plus vraiment où il est, où il
habite. Il faut le protéger contre lui-même.
Il faut le protéger contre lui-même. Et voir des autres, parce que s'il pense que ses voisins sont des aliens qui lui envoient des mauvaises ondes, il peut aussi être dangereux.
Est-ce qu'en France, on sait bien s'occuper justement de ces malades ou pas ?
Oui, enfin, moi, l'impression, je ne voudrais pas avoir l'air d'être trop pro-domo, mais oui, on est un pays assez moderne qui s'occupe bien. On se pose justement des grands problèmes sur la liberté, le consentement, Oui, je pense qu'on a... Alors, évidemment, quand vous allez n'importe où, un hôpital, un commissariat, vous pouvez toujours voir des choses qui ne vont pas bien, mais globalement, je pense qu'on est assez à la hauteur.
Zabou Breitman, vous avez beaucoup enquêté avant de mettre un point final à la pièce ?
Non, on a travaillé sur le documentaire, encore une fois. C'est pas seulement le fond, c'est pas seulement ce qui se dit, c'est comment c'est dit. C'est ça que je veux dire, c'est pas verbatim, on n'a pas pris le texte. Ça, c'était pas ça l'idée. C'est comportemental, c'est-à-dire que c'est pas...
Comme pour les gens, ce que vous avez expliqué tout à l'heure.
C'est ça, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait ce geste-là entre les deux mots, bah ça ne veut pas dire la même chose que s'il n'y avait pas ce geste-là. Donc, les silences, les hésitations, tout est joué parce que... Enfin, tout est joué ou reproduit, puisque l'idée, c'est de ne pas voir le jeu. Tout est. On essaie de que ça soit. Et le simple fait de poser... ces scénettes du quotidien, d'un quotidien d'un hôpital, poser la distance du théâtre fait le reste, entre guillemets. C'est-à-dire que le fait que ça soit loin et que ça soit au théâtre provoque une réaction très très forte du public. Mais si je prenais une scène dans la rue et qu'on la reproduisait exactement pareil et qu'on la met au théâtre, ce qui est, c'est vrai que c'est un gros gros travail, ça produirait probablement un effet très similaire.
Ça fonctionne extrêmement bien en tout cas. Merci François Lelord d'être venu à ce micro.
Merci, je voulais juste dire que dans cette pièce, il y a effectivement des instants de vérité et aussi des instants de poésie, parce que c'est quand même transfiguré dans l'art. Donc c'est une belle pièce.
Oui, merci.
Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Vous vous passionnez aujourd'hui pour la campagne des Européennes.
Ah bah oui, parce qu'elle est passionnante, avec que des leaders intenses, ce charisme énorme, Manon Aubry, Jordan Bardella, ça va être le combat du siècle, Yannick Jadot, François Asselineau, Nathalie Loiseau, il n'y a que des hauts, il fait quoi Toto Cotugno? Bon, je plaisante, les Européennes, c'est ennuyeux, rien que d'en parler, j'ai sommeil.
Frédéric Sigrid, je te dérange peut-être. Albert Halbou.
Bonjour.
Jérémy Crédville.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour, Jérémy.
Et notre invité, Zabou Breitman.
Bonjour,
Zabou.
Texte librement inspiré, fortement inspiré par le documentaire d'Ilan Klipper, au geste près, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, Zabou Breitman, avec Antonin Chalon, Camille Constantin, Rémy Lacquitant, pardon, et Marie Petiot. Ces quatre actrices et acteurs avec des textes d'Anton Tchekhov, de William Shakespeare, de Zouk, tout ça rajouté avec des textes de Zabou Breitman, quand même, faut le préciser, parce que...
Bah, attendez.
Bah oui, quand même.
J'ai six Molières, ok?
Non, mais...
Six Molières.
Ok. Une chorégraphie de Gladys Gambi et des acrobaties de Yang Biolin. Bref, tout ce
beau monde. Et du clown de Fred Blin.
Oui, vous avez raison.
Fred Blin, c'est un des chiches capons. Mais ouais.
Oh, formidable.
Ouais, formidable.
Est-ce que ces comédiens, justement, ont fait l'école du cirque?
Pas du tout.
J'ai l'impression qu'ils sont plus que des comédiens.
Ah bah, ils sont des comédiens, en fait. Des comédiens, ça devrait être ça. Maintenant, moi, je trouve qu'ils doivent bosser et faire. Et ça, mais ils sont aujourd'hui, ils savent tout faire. Ils sont incroyables. Bah, ils avaient déjà, je vous dis encore une fois, beaucoup de talent, mais simplement, ils ont ajouté plein de choses, plein de cordes à leur arc, quoi.
Ça a commencé en Avignon, à Avignon. Ça continue au théâtre du Rond-Point. Puis il y aura une tournée. Est-ce que justement tout est prévu, toutes les didascalies sont très précises, on ne peut rien improviser, même si on a l'impression, nous, dans la salle, qu'il y a de l'impro.
Il y a un truc d'impro à un moment donné. À un moment donné, il faut un show de lapin, et elles chantent une petite chanson, et c'est leur show de lapin. C'est
le fameux show de lapin.
Le fameux show de lapin.
Bah
écoutez,
je l'ai pensé, je l'ai dit au revoir.
J'ai six Molières, ok? Alors, ensuite. Et donc, à la fin, ils débriefent selon ce qui se passe dans la salle. Et ça, c'est assez drôle. Parce qu'ils parlent. Alors, si les gens applaudissent, ils disent « Ah, ils ont applaudi, c'est sympa. » Ou « T'as vu, il y a eu un mec qui avait envie d'applaudir. » Et ils parlent de du moment présent. Et ça, c'est assez rigolo pour eux parce qu'ils sont tellement tenus et impeccables que c'est un petit moment de... Et il y a aussi une scène un peu folle à la fin... qu'on appelle la scène de la girafe, bref, allez le voir, vous verrez, et où elle devient dingue, elle pète un plomb, et là un peu, c'est un peu
libre au cours, l'imagination, logique imperturbable du fou. Pourquoi fallait-il tout attacher dans le titre et ne pas l'écrire en plusieurs mots?
Je sais pas, j'avais envie.
Ok, merci. Voici ton Passion. Tanguy, vous allez nous parler ce midi des élections européennes.
Oui, je sais bien que c'est pas le sujet le plus passionnant du monde. Mesmer, il faut le savoir, quand il veut plonger Amel Bent dans le sommeil, lui murmure élections européennes à l'oreille. La petite part pour 16 heures d'hypnose. Elle est toute raide. On peut la foutre entre deux tréteaux et s'en servir pour peser des bières. Les européennes, c'est comme l'Europe, en fait. C'est un peu chiant. Au Mali, on guinche. À Pattaya, on couche. En Colombie, on sniffe. En Corée du Nord, on hurle je t'aime. Kim Jong-un, fais-moi un bébé qui aura ta tête avec des grosses joues qu'on dirait des fesses. Mais en Europe, on s'ennuie. Donc tous les 5 ans au Parlement européen, cet espace clos qui sent la monotonie et le Xanax, comme le salon pour un couple marié depuis 10 ans, on envoie des Allemands en chemisette, des Français dépressifs et même des Polonais. Tous fades, blanchâtres, suintant le mal-être par tous les pores de leur peau. À faire passer un concert de Cure en 79 pour une soirée zouk avec concours de sosie de pubis de Francky Vincent. Alors attention, je n'appelle pas à l'abstention. Voter, c'est important. Des gens se sont battus pour ça. Certes, ils ne savaient pas qu'un jour, il y aurait Nathalie Loiseau. Hein, sinon, ils auraient fait autre chose de leur vie, les mecs. Hein. Ils auraient manifesté devant les boulangeries en criant « On dit chocolatine, papa en chocolat enfin, !» des combats crédibles, quoi. Non, vraiment voter. Ben, non, mais Nathalie Loiseau, non, mais celle-là, je pense que si elle n'existait pas, bah, il faudrait rien faire. Hein, non, mais parce que c'est un boulet. Ah bah, je pense qu'elle fait la campagne la plus foireuse depuis l'invention du vote, hein, qui a eu lieu, je crois, en 2001, lors du premier prime de la Star Academy. Alors d'abord, on a réalisé qu'étudiante, elle avait roulé pour une liste d'extrême droite avec des gens qui s'étaient fait tatouer la croix celtique sur le poitrail. Hein, et c'était pas pour déconner à la fin d'un fest-noz arrosé à Concarneau. En plus, c'est Macron qui l'a choisi. Enfin, comme directeur de casting, il est nul. Vous le mettez sur le dernier film des frères Dardenne, il vous dit tout de suite, j'ai pensé à Steven Seagal. Ensuite, en interview sur France Culture, la radio des gens qui mettent le volume à fond pour que tout le monde entende qu'ils écoutent France Culture. Nathalie Loiseau a dit, j'avais l'impression d'être une Romanichelle quand je suis arrivé à l'ENA. Paf, elle a été taxée de racisme. Ben parce qu'on ne peut plus rien dire, hein, même à propos des Chinois. Ah mais Michel Leeb aujourd'hui, il ferait Turner Fraser. Hein. Non mais rien ne va dans cette campagne. Elle a dû être conçue sur un ancien cimetière indien. Vendredi, plus loin dans le ridicule, La République En Marche a lancé un jeu vidéo avec comme héroïne Nathalie Loiseau. Vous voyez Lara Croft, hein. Bon bah, rien à voir. Hein. On voit une petite dame ressemblant à Mrs. Doubtfire sauter sur des pylônes. Du sous Mario Roumain. Atroce. Il n'y a même pas de petites pièces à récupérer. Dans le jeu, le personnage de Brigitte Macron les a toutes chopées pour aller faire ses courses chez Vuitton. Bref, Loiseau est tellement à l'ouest que c'est un goéland. Si elle va à Brest, elle va se coller en haut d'un lampadaire et lutter contre le vent, Nagui.
Bon, alors, cette candidate a donc été aidée ce week-end par ce qu'on appelle les poids lourds de la politique.
Ah oui, en meeting à Strasbourg, sont venus la soutenir Édouard Philippe quand même et Jean-Pierre Raffarin. Hein, et ils sont persuadés que les gens vont se dire « Ah ouais, Raffarin, oh my god, j'adore son centre, je vote Loiseau, d'accord ?» Alors que, pardon, mais Raffarin, on l'invite quand tout le monde avant vous a dit non, y compris Faudel, Séverine Ferrer et Grosquick. Hein. Mais à La République En Marche, Raffarin, ça les fait rêver. Vous leur proposez 4 places pour Beyoncé, ils vous disent « Attends, je regarde mon agenda, hein, voir si Raffarin n'est pas en conférence à Mâcon le même soir. Hein. » Alors les autres partis, c'est pareil. À la France Insoumise, Manon Aubry, une inconnue, a été soutenue ce week-end par Jean-Luc Mélenchon, hein, qui est partout, mais on ne voit que lui alors qu'il est avant-dernier sur la liste. C'est comme si sur l'affiche de Taxi 6, on virait les noms des acteurs pour écrire en gros « Théo, stagiaire de 3e, a fait 4 cafés ». Du côté du PS, Raphaël Glucksmann de Place Publique, enfin Place Publique, petit patio, hein, parce qu'ils sont 3. Bon, bah passé le périph, le gonze est moins populaire que Glamrock au Vatican. Du coup, là aussi, on lui colle des stars. Hier, il s'est baladé sur les 4 scènes avec Anne Hidalgo. Hein, certainement un gage, il a dû faire une fondue et a perdu son bout de pain. Quoi. Alors comme il fait 2m07, il a caché le soleil les 4 minutes où il est apparu, alors que tous les mecs qui ont fait du sport toute l'année pouvaient enfin déballer leur bidoche, donc ce lourd a gâché la journée de tout le monde. Ce soir, il est à Rouen, on lui a mis Christiane Taubira. Jeudi à Lyon, il aura Bernard Cazeneuve et Martine Aubry, que des déconneurs. Hein, de toute la campagne, il n'aura pas vu un sourire. Il ne sait même plus que les dents existent. Hein, par réflexe, au resto, à chaque fois, il commande une soupe. Et il aura aussi Najat Vallaud-Belkacem. Bref, la moitié du gouvernement de Monsieur Haricot, hein, le Mr Bean français, qui a œuvré sous le pseudo de François Hollande. Le Pôle emploi leur a rien trouvé. Pour eux, Glucksmann, c'est la dernière chance qu'ils ont de rester propres. Hein, s'il échoue, ils seront au feu rouge à faire les pare-brises. Des Romanichelles, comme dirait Nathalie Loiseau.
Oh,
alors, à noter que le Rassemblement national, bon bah c'est pareil, hein. Tête de liste Jordan Bardella, un anonyme. Donc ils ont mis Marine Le Pen partout sur les affiches. Lui on voit juste son petit doigt dépasser derrière l'oreille gauche de l'autre, hein. C'est comme Hitchcock dans les films, on a 80 minutes de Le Pen et un moment, Bardella traverse une rue. Aucune importance, puisque le RN, c'est un parti qui est juste fait pour montrer qu'on n'est pas content. S'y présentait une enclume, l'enclume finirait première devant l'oiseau. Bref, j'ai parlé des européennes. L'auditeur en voiture a dû se mettre à pioncer. Ils vont pas être bons, les prochains chiffres de la sécurité routière. Mais votez quand même, c'est important.
Merci. Ouais.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Au théâtre du Rond-Point, Logique imperturbable du fou. Étant donné le succès de cette pièce, Zabou Breitman, pourquoi ne la jouer entre guillemets que si peu? Enfin, ou de la, beaucoup en tournée, mais là, un mois, c'est pas énorme.
Non, je sais pas quoi répondre parce que. Que
au Rond-Point, ça joue pas forcément pas très longtemps, oui. Voilà.
Ouais. C'est pas votre théâtre, mais vous aimeriez ça pourrait rester de septembre.
Le public aurait aimé.
De septembre à
mais
juin,
peut-être
oui.
Qu'on reviendra. On ne sait pas.
Cinq semaines, c'est pas mal déjà.
Trois semaines et demie.
Ouais, ouais, non, ouais, c'est
mais
pas
Max,
énorme.
Max au Rond-Point, je crois que ça accepte
c'est
pas
cinq,
un mois.
C'est cinq. De toute façon,
mois,
il prend pas
semaines.
Beaucoup plus. C'est un peu le principe aussi du théâtre du Rond-Point. Ouais. Il fait tourner comme ça beaucoup de pièces, mais après.
Cette pièce pourrait aller dans le privé. Cette pièce pourrait.
Elle peut aller partout. Où on nous dira d'aller.
D'accord, madame la productrice, parce que c'est vous aussi la patronne.
Alors non, je suis ma compagnie fait tourner le spectacle et va produire un spectacle. Alors et produit un spectacle du petit et du jeune et du pas si petit maintenant, Antonin Chalon.
Vous dites le petit, c'est votre fils.
Mais c'est mon petit, mais bon. Bah, Antonin Chalon
ça
qui
sera
va
toujours votre petit, quelle que soit la taille, oui.
Qui met en scène à Avignon là cet été, After the End, la pièce de Denis Kelly, avec dedans Marie Petiot, donc Marie qui est dans le.
Ouais.
C'est un peu tout le monde se retrouve et Xavier Guelfi. Et on se retrouve.
Ouais, ça devient une compagnie, ouais, c'est ça.
Ouais. Bah, oui, c'est ça, c'est comme des troupes et on retrouve un peu les mêmes. Et moi, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Et la pièce se jouera à la Manufacture. Et voilà, je l'ai dit.
Voici Frédéric Sigrist.
Oui, alors la semaine dernière, j'étais pas là parce que j'ai visité Lisbonne et c'est vraiment une ville splendide. Hein. En même temps, ça m'est pas arrivé comme une surprise parce que j'ai toujours aimé l'Italie. Et
voilà.
Et j'aime bien me promener dans les capitales étrangères parce que ça me permet de dire tout le mal que je pense des Parisiens. Alors, c'est pas que tout soit mieux que chez nous, mais c'est juste que ça fait plaisir de rentrer dans un bar sans avoir à se demander « Tiens, est-ce que je bois quelque chose ou est-ce que mes enfants font des études ?» En plus, quand je suis arrivé à Paris de ma Lorraine natale, ce qui m'a surpris, c'est que les serveurs, ici, ils font la gueule en plus. Et des fois, j'ai envie de leur dire « Franchement, vu le prix du demi, s'il y en a un ou deux qui doit faire la gueule, c'est moi !» Mais bon, positivement, je me dis que si les Français étaient moins désagréables avec les étrangers, les Allemands seraient sûrement restés plus longtemps, hein, on peut pas savoir. Alors en général, quand on est dans une ville étrangère, le passage obligé pour Hélène et moi, Hélène c'est ma femme, c'est les musées. Alors, au Japon, on a visité les musées, au Canada, on a visité les musées, au Portugal, des musées. Et vous savez quoi? J'aime pas les musées. Ah, je sais que ça se dit pas parce que c'est honteux. On dit, oh, mais il est complètement con. Oui, c'est vrai, je suis complètement con. Non, c'est vrai. Leïla et Albert, les cautions culture de l'émission, vous allez faire des gros yeux. Enfin, en même temps, calmez-vous, hein. Je dis que j'aime pas les musées dans la bande originale, hein. Dire, ça fait 4 ans que je suis dans cette émission. On est quand même plus proche des aînés bonheurs que d'Extébris, hein. On reçoit plus souvent Danny Boone qu'Yves Copin, ça. Non, les musées, je suis désolé, je sais que je devrais pas le dire, mais j'aime pas ça. J'y vais tout le temps, mais j'aime pas ça. J'ai piétiné pendant des heures devant des pots de chambre fêlés, à lire des cartons chiants comme un film danois non sous-titré, tout en faisant semblant de m'y intéresser, parce que tout le monde fait semblant. Je vois des mecs qui sont là, mais toi aussi tu fais semblant. Je fais semblant. Ça me demande une énergie de faire semblant. On dirait vous, Nagui, en train d'écouter mes chroniques. Hélène, c'est pas pareil. Ma femme, c'est pas pareil. Elle a fait histoire de l'art. Elle, devant un vase étrusque, elle est dans le même état que quand je vois Avatar en 4DX. Elle a dit, oh, tu te rends compte, toute cette civilisation, regarde ce peigne. Mais moi, un peigne déjà au 21e siècle, j'en ai pas l'utilité. Alors du 4e, t'imagines même pas. Non mais j'ai honte, je suis pas du tout sensible au beau. Hein. Vous allez me dire, on s'en serait douté en voyant tes fringues. Mais vous savez, c'est gênant. C'est très gênant. C'est très gênant d'être con et de le savoir. Parce que des fois, j'ai honte d'être plus stimulé par Vin Diesel qui respecte pas les priorités dans Fast and Furious que devant un tableau de Cézanne. Je me sens un petit peu sale, comme si on avait créé un monde finalement trop beau pour moi. Si un jour je rencontre Dieu et qu'il me dit « Fred, t'en penses quoi de ma création? Je me suis quand même bien cassé le cul !» Je vais lui dire « Écoutez Nagui, oh pardon, c'est l'habitude de t'appeler comme ça les mégalos. » Intellectuellement, il y a beaucoup trop de pièces. Je comptais pas habiter dans si grand. Moi, une chambre de bonne, c'était bon pour moi. En plus, je suis de gauche. Enfin, je veux dire, Hélène est de gauche. Moi, c'est par amour que je me suis converti. Et des fois, les gens me disent « Oh, mais vous, les humoristes à France Inter, vous avez des convictions. » Enfin, oui, enfin, moi, mes convictions, mes enfants l'appellent maman et elle m'envoie des textos en me disant de prendre du pain de temps en temps. Bon, bah, partir en vacances quand t'es de gauche,
gauche, mais c'est pas simple. Parce que tu peux pas aller dans des endroits hyper touristiques, confortables, où tout le monde va. Non, quand t'es de gauche et que tu vas à l'étranger, faut que t'ailles à la rencontre des vrais gens. Il y a les vrais gens. Ah, dans les, là où les façades d'immeubles n'ont pas été refaites, les troquets où le café colle à la nappe vintage en formica, ces endroits où les loyers sont encore abordables, justement parce qu'il n'y a pas encore eu une tonne de touristes. Mais ça, c'était avant les bobos, parce que le bobo, finalement, c'est quoi? Si c'est un riche qui terrorise les pauvres, il les poursuit, parce qu'il veut, de la carte postale, il veut du vrai, de l'authentique. Et il y a deux trucs à savoir pour savoir si t'es pauvre. Il y a des huissiers à la porte et un hipster à la fenêtre. C'est les deux règles. Donc avec ma femme, chaque vacances à l'étranger, on se tape tous les quartiers chelous où les gens, ils ont clairement pas envie de nous voir parce qu'ils savent, qu'en fait, on est rien d'autre que de l'inflation avec un accent français. Ils le savent. Et des fois, j'aimerais bien vivre une seule fois dans ma vie des vacances de droite parce que ça coûte peut-être plus cher, mais au moins, t'obliges pas les pauvres à déménager.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Zabou Breitman est venu nous rejoindre malgré une nuit, non pas mouvementée, mais courte.
Non, j'aurais bien aimé mouvementée, mais non.
Puisque
juste courte.
Vous étiez à Cannes pour présenter dans la section Un certain regard, un film qui sortira le 4 septembre prochain, que vous avez co-réalisé avec Eléa Gobmevelec, un film d'animation pour adultes. Je ne sais pas si on...
Oui, c'est ça.
D'après le roman de Yasmine Kadra.
Yasmina Kadra. Yasmina Kadra. Qui est un homme,
Un auteur.
Qui a pris les deux prénoms de sa femme. C'est quand même pas mal, non, pour un militaire de l'armée algérienne.
Surtout pour ça. Ouais.
Les hirondelles de Kaboul. Ouais. Vous expliquez que c'est de l'animation dessinée, mais on reconnaît les acteurs.
Alors, on reconnaît les acteurs, et pourtant, c'est comme ce que Eléa a fait, c'est quasiment de la peinture animée, c'est une sorte d'aquarelle, et pourtant, c'est un film. C'est-à-dire que on n'est plus dans l'animation au bout d'un moment, alors que en fait partout on a envie de juste arrêter chaque image et dire bah tiens je vais prendre ce truc là pour chez moi. et pourtant dans l'hyper réalisme du jeu, puisque ça a été fait à l'envers en fait, j'ai d'abord demandé aux acteurs de jouer complètement, même en costume, Abkarian, Yamaba, soit ils avaient les costumes. Ensuite, on a gardé le son et les animateurs sont arrivés bien après et ils ont dû regarder et les mouvements, les temps. C'est la même chose qu'en fait pour la logique. C'est que les respirations, les hésitations, je disais aux acteurs, allez-y si vous voulez tousser, faire des petits machins.
Donc c'est pas un traitement de l'image des acteurs en train de jouer qui a été traité par un ordinateur
pour
recréer le trait d'un dessinateur?
Non. On est dans un truc très artisanal.
C'est du doublage, en fait. Comme du doublage du jeu, mais par le dessin.
C'est ça. Mais, et pourtant, quand même, avec une distance. Ouais. C'est pas la motion capture. Mais c'est très, très proche, quoi. Donc, ça donne quelque chose d'extrêmement intime.
Le film a été monté d'abord, d'un point de vue sonore. Vous avez tourné.
On a travaillé beaucoup sur le son.
Ce qu'on appelle un ours.
Ce qu'il appelle l'animatique.
Voilà.
Exactement. D'habitude, c'est pas fait comme ça.
Non.
Et donc, le rythme là, et le rythme des acteurs, et les mouvements des acteurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, quand ça a été présenté, en fait, c'est à l'AFCAE, c'est-à-dire les cinémas à réessai. Et donc, ça va à Cannes, on est présenté le 16,
jeudi.
À Cannes. Voilà. Et, il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai reconnu le dos d'Abkarian. C'est-à-dire que son comportement, ses mains, sa façon de bouger ses mains, c'est-à-dire que c'est minimaliste. Ils sont pas mis à bouger dans tous les sens, Et il y a un monologue par exemple de Yamabas à un moment donné où il y a très peu. Or quand on sait qu'ils font 2 secondes par jour les animateurs. Vous vous rendez compte de comment il faut,
Faut
y croire pour faire un monologue de 2 minutes. et c'est animé et c'est une subtilité incroyable.
Vous serez également à l'affiche de Salaud de pauvre, un film à sketch écrit par 12 auteurs.
Ouais.
Ça arrive là, au mois de juin.
Et avec mon papa qui a réalisé son seul et unique court-métrage. Et pour revenir sur les hirondelles, mon père est dans les hirondelles, c'est-à-dire que c'est sa voix. Et Léa a dessiné ses traits. Mon père est décédé depuis, donc, et je le vois en peinture, avec sa voix.
Ouais, c'est fort. Ouais.
C'est magnifique.
Ouais.
C'est pas comme quand je le vois, parce qu'il était acteur, donc je l'ai vu dans des films, dans des courts-métrages. Là, c'est autre chose. c'est la dimension, il est, bah, c'est l'immortalité du dessin, quoi. Donc il y a quelque chose de, d'extrêmement touchant. Et effectivement, il a réalisé son premier film, mon cher et adoré père Jean-Claude Deray, dans Salaud de pauvre, un des sketchs. Ouais.
Actualité chargée. Le 10 septembre, vous mettrez en scène La Dame de chez Maxime de Fedos au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Oui.
Avec.
Avec Michel Escaut, Léa Drucker, André Marcon, Anne Roger, Pratt, Eric Pratt, Christophe Pahou, enfin plein de gens. Bon. Il y a beaucoup de monde.
Et puis vous serez sur France 2 dans Le Diable au cœur, réalisé par Christian Faure, que j'embrasse au passage. Où là vous jouez une directrice d'agence de liberté
conditionnelle. De réinsertion, ouais. C'était difficile. C'est-à-dire que le scénario était extraordinaire. Et on a beaucoup parlé avec Christian, parce qu'il y a des scènes vraiment très, 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 très dures à jouer. Et entre la lectrice du scénar qui dit « Oh là là, c'est super !» et l'actrice qui dit « Ah, va falloir que je le tourne, ça, quand même !» C'était chaud. C'était très, très chaud. Il y avait des scènes vraiment très, très dures. Et heureusement que c'était ce merveilleux Christian Faure.
C'est un formidable réalisateur.
Ouais. Formidable réalisateur, être humain, brillant.
Adorable.
Enfin, merveille d'homme,
absolument.
Merveille.
Absolument. Dans tous les métiers que vous avez finalement, parce que vous êtes multicarte, hein, entre non mais auteur, metteur en scène, actrice, chef de bande, leader, vous montez des projets, vous en suivez d'autres, réalisatrice aussi.
Et c'est justement
C'est cet éclectisme-là que vous aimez, c'est ça qui vous nourrit au quotidien.
Oui, c'est ça, je ne cherche pas à faire un autre truc. Hein. C'est juste que je suis tellement enthousiaste et curieuse que parfois je dis « Oh ça, j'ai très envie de faire ça ».
C'est quoi le point commun de tous ces métiers finalement? C'est la création?
Oui, fabriquer, faire quelque chose. C'est faire un truc. Et essayer de que ça soit justement pas dans la convention, pas dans le code. Sortir un tout petit peu du code à chaque fois, quoi. C'est ça le plaisir, en fait. Dans le film d'animation, ça a été le cas. Comme actrice, c'est plus difficile. Le premier travail, quand même, d'un acteur, d'une actrice, c'est d'un interprète. Donc, c'est être dans la vision du metteur en scène ou du réalisateur. Ça, pour moi, c'est extrêmement important.
Proposer aussi un tout petit peu, non?
Oui, proposer, ouais. Mais on peut pas deviner ce que le réal, la réalisatrice a dans la tête. On sait pas ce que la personne pense. Et donc, faut respecter son univers. C'est très important.
Il y a la création, je trouve, comme point commun de tous ces métiers. Et il y a le jeu. Mais le jeu au sens ludique du terme, le plaisir.
Ah ouais. Mais le plaisir, il vient aussi du fait de détourner le code. Donc, c'est le premier jeu, quand même.
Sortir des sentiers battus.
Mais ouais, c'est...
Comme vous l'avez fait ici à la radio avec Laurent Lafitte aussi, c'est
décalé. Voilà, être juste un tout petit peu sur le côté, s'amuser un tout petit peu sur le côté. Parce que c'est ludique, la culture. C'est extrêmement ludique. Si ça ne peut pas ne pas l'être. Sinon, ça dégoûte tout le monde. Or, c'est ludique. Bien sûr qu'il y a mille manières d'être ludique et d'être tout à prendre.
On vous sent extraordinairement libre. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que vous êtes quand même tributaire de commandes, de théâtre, de troupes, de disponibilité, ou est-ce que vous êtes vraiment libre?
Alors, faut quand même rentrer dans la demande. On est bien obligé. On vous demande quelque chose. Il faut quand même honorer. Il faut qu'à l'arrivée, il y ait quelque chose. Il faut qu'on honore ce qu'on nous a demandé. Ça, c'est la moindre des choses. Et après, faut essayer de s'amuser avec et d'essayer de
jongler.
De jongler, de faire quand même un autre truc. Mais que le contrat soit là, c'est-à-dire que ça soit très bien, mais peut-être un peu différent de ce que les gens attendent.
Une chose dont vous rêvez
rôle,
c'est quoi la définition d'un grand
un grand rôle qui challengerait, peut-être inattendu, un grand rôle au cinéma, en fait, j'ai pas tellement d'idées, ça dépendrait plutôt du scénar ou du réalisateur ou de la réalisatrice. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, quelqu'un qui me fait confiance sur, j'ai pas fait tant de très, très grands rôles au cinéma. Et j'aimerais bien, c'est pas une question d'être, regardez-moi, c'est super. C'est pas pour le plaisir aussi que ça procure de se mettre un peu en danger, ouais, quand même.
Quand on dit grand rôle, on entend souvent des rôles dramatiques. On n'imagine pas quelque chose
c'est
de
pas
comique.
Pas pour moi. Pour moi, ça peut être les deux. Vous voyez, En fait, ça, j'aime bien quand il y a toujours les deux à l'intérieur de la. J'aime bien quand les deux masques. Non, vous voyez,
le
comédie.
Grand rôle par excellence, c'était Coluche et Chirpantin. On le ressort à chaque fois, mais ouais, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse.
Pour moi, c'est comme Frances McDormand. C'est ça, des grands rôles.
Three
Billboards, c'est des rôles comme ça. Et il y a des choses qui sont drôles, ou Fargo, enfin voilà. Et il y a des choses qui. Bon, après, évidemment, c'est là les frères Cohen, mais voilà.
Logique imperturbable du fou, c'est au théâtre du Rond-Point et c'est jusqu'au 2 juin avec Antonin Chalon, Camille Constantin, Rémi L'Aquitant et Marie Petiot. Mais si, beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai dit mais si comme ça.
Moi, ça me gêne pas.
Merci Zabou Breitman d'être venu à ce micro.
Merci de m'accueillir si gentiment.
Demain, nous aurons une demi-heure d'émission puisqu'il y aura l'hommage national rendu à nos militaires. Ça sera à 11h et puis ensuite de midi à 12h30, nous recevrons Isabelle Ginas et Patrick Catalifo.